Ce matin dans la louange, moi j'ai tiré trois points forts. D'abord, révèle-nous ta puissance. Ensuite, ta grâce me suffit. Et ensuite, je saisis la victoire. C'était ça pour vous? Ouais, c'était simple. Alors ce matin, on va voyager dans l'Ancien Testament et on va parler d'Élie. Vous connaissez tous Élie? Oui? Vous connaissez tous sa vie? Un petit peu? Alors on va vraiment faire un panorama de sa vie et on va voir un petit peu quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses et qu'est-ce que on peut retirer de tout ça. Alors quand on parle d'Élie, on parle du prophète de feu, le prophète qui avait l'onction sur lui, le prophète parmi les prophètes. Élie, c'est quand même Élie, quoi. Et vraiment, ça, c'était l'homme avec qui, voilà, il y avait des miracles, Dieu l'accompagnait, il se passait des choses. Et on va aller creuser un petit peu plus loin. Alors, Élie a été levé par Dieu à un moment donné, critique pour le peuple de Dieu. C'était un moment où le roi Akab régnait. Et ce roi, il est dit, on va tout de suite lire, vous allez voir, on va lire beaucoup. Donc, si vous avez vos Bibles, c'est mieux d'avoir votre Bible. Parce que Pierre va envoyer quelques versets. Mais vous allez voir, on va travailler sur deux chapitres. Et pour pas perdre le fil, c'est bien d'avoir sa bonne vieille Bible. Je vois qu'il n'y a plus personne qui l'a. Bon, sortez vos smartphones, ça ira aussi. Alors, on va voyager. Alors, le premier verset, c'est le verset 30 du chapitre 16. Et là, on va voir dans quel contexte arrive Élie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc pour Akab, l'Éternel, Yahweh, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant n'existait plus là. Il s'était marié donc à une femme, à une païenne, qui est venue avec ses divinités, ses dieux. Et puis elle avait l'influence sur Akab qui a commencé à adorer, se prosterner devant Baal. Vous me suivez jusque là? Et de là, vous voyez, il y a un contexte où en Israël, on commence à abandonner Dieu. Parce que il n'est pas juste question d'une influence venue d'ailleurs. Vraiment, Jézabel veut imposer le culte exclusif à Baal. Et là, ça plaît pas à Dieu. On voit, si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, à chaque fois que le peuple de Dieu a commencé à adorer quelqu'un d'autre que lui, ça lui plaisait pas. Mais là, c'est plus juste un petit peu adorer quelqu'un d'autre. C'est vraiment Jézabel veut imposer l'exclusivité sur Baal. Et là, ça plaît pas du tout à Dieu. Donc Dieu lève Élie dans ce contexte-là. Et il dit, Élie, maintenant tu vas aller parler au roi Akab. Et donc, au chapitre 17, au verset 1er, eh bien, on va voir ce que l'Éternel dit à Élie de faire. Chapitre 17, ouais, c'est ça. Élie, on va le laisser passer celui-là, d'accord? Vous me pardonnez, je pars. L'un des habitants de Galaad dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Chérie, est-ce que tu peux me ramener de l'eau, s'il te plaît? Ah, c'est génial. Ça, c'est... Alors moi, je perds tout de suite, vous voyez, c'est compliqué. Alors, on voit que donc Dieu envoie Élie. Élie vient voir Akab et lui dit, voilà, maintenant, sur ma parole, il pleuvra plus en Israël. Seulement, à partir du moment où moi, je vais parler, la pluie reviendra. Donc là, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train, entre guillemets, il veut se révéler à nouveau au peuple de Dieu. Et par là, il envoie quoi? Une épreuve, donc plus de pluie. Et pour voir qui est Dieu, qui est vraiment Dieu. Donc Élie fait ça. Et il dit juste à Élie, maintenant tu t'en vas. Tu vas là-bas, là, on voit à Kérit, donc il va près du Jourdain. Et il lui dit, je vais m'occuper de toi maintenant. Et là, à partir de là, Élie a déposé son message auprès d'Akab, ça frappe Akab. Et puis il s'en va, il le laisse comme ça, il le laisse mijoter. Et puis Dieu maintenant emmène Élie à l'école. Et il emmène à l'école de la foi, il emmène à l'école de la confiance en Dieu, il emmène vraiment à l'école de je veux dépendre exclusivement de toi. Et on va voir plus tard, encore une fois, que Élie, est-ce que je t'avais demandé le verset 4? Voilà, tu peux mettre le verset 4, la suite. Donc le verset 6, le verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit, se conforma à la parole de l'Éternel et il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouvant en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec car il n'était pas tombé la pluie dans le pays. Donc déjà là, il dépend. La première chose, c'est la nourriture, il dépend de Dieu. Et Dieu lui montre, voilà, moi je peux te nourrir, il envoie les corbeaux, vous voyez, c'est miraculeux. Élie n'a rien à faire, tout simplement, il obéit à l'ordre de Dieu d'aller près du torrent, et là, Dieu fait le reste. Il envoie la viande, il envoie le pain, l'eau est là, jusqu'au moment où le fleuve est à sec. Fleuve à sec, il lui dit maintenant, tu vas aller à Sarepta. On va faire un peu toute la vie d'Élie, vous allez voir. Et il lui dit, va à Sarepta, et là-bas, eh bien, une femme, une veuve va prendre soin de toi. Vous connaissez cette histoire, on pourrait prêcher sur cette histoire, mais là, on va juste la passer rapidement. Et donc, Élie arrive à Sarepta, et puis, il arrive à Sarepta, et au verset 8, alors la parole de l'Éternel fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, installe-toi là, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Plus loin, au verset 12, vous voyez qu'il vient voir la femme et il lui dit, écoute, eh bien, il rencontre cette dame et cette dame est en train d'aller chercher du bois. Elle prend son bois et Élie lui dit, écoute, fais-moi à manger et ramène-moi de l'eau. Et elle est dans un contexte où il pleut plus, il n'y a plus rien à manger. Sans eau, on ne peut rien faire, plus rien pousse. Il n'y a plus ni à boire ni à manger. Et elle est en train d'épuiser son stock. Et là, Élie lui dit, écoute, fais-moi à manger. Et elle lui répond, elle lui dit, mais tu sais, moi, là, je suis allé chercher du bois, je vais cuire un peu de pain, je vais cuire faire un petit gâteau pour moi et mon fils, et ensuite nous mourrons. Donc vous voyez, elle s'était déjà préparée à la mort, cette femme. Voilà, j'ai plus rien, c'est notre dernier repas avec mon fils, et on va mourir. Elle lui dit, t'inquiète pas, va, occupe-toi de moi, et ensuite tu pourras t'occuper de ton fils. Vous voyez, la parole d'Élie, remplie de foi. Dieu lui dit, va là-bas. Lui déclare des choses et les choses arrivent. Et ensuite, on voit, alors, on va arriver au verset 15. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua pas d'huile, qui était dans la cruche, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole de l'Éternel avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Donc là, cette veuve, elle est spectatrice du surnaturel. Elle constate elle-même qu'elle n'avait plus rien. Elle a déclaré à Élie, moi, c'est mon dernier repas. Ensuite, je me prépare à la mort. Et là, sur la parole d'Élie, elle voit quoi? Elle voit un miracle. Tout se multiplie. Et elle a pu nourrir pendant très longtemps, elle a pu nourrir son fils, elle-même, et Élie. Parce que Élie a dit, tu auras tout en abondance jusqu'à ce que l'eau revienne. Et on sait que l'eau est revenue 3 ans après. Donc cette dame, pendant 3 ans, a été au bénéfice de la faveur qui reposait sur Élie. Mais pourtant, elle ne reconnaît pas Dieu. À ce moment-là, elle voit un miracle, mais aucunement il est dit qu'elle reconnaît Dieu. Elle est juste au bénéfice de ce qu'Élie fait. On va plus loin. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le temps passe, et là, le fils de cette dame meurt. Là, c'est une tragédie. Une veuve qui perd son fils. Faut imaginer, elle se retrouve seule. Il meurt. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Élie dit, attends. Arrête-toi là, je vais prier pour lui, je vais m'occuper de lui. Je vais demander à Dieu et il va se passer quelque chose. Et là, on arrive au verset 15. On arrive au verset 22. Élie prie. L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre, jusque dans la maison et donna à sa mère en lui disant « Vois, ton fils est vivant !» La femme dit alors à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Elle ne reconnaît qu'à la résurrection de son fils que Dieu est vivant et que la parole dans sa bouche est vraie. Alors qu'avant, elle a vécu sous la faveur Et la main était sur Élie et elle avait la bénédiction, elle avait l'abondance. Mais elle ne reconnaît que Dieu est vivant qu'à partir du moment où lorsqu'il y a quelque chose de très cher qui lui a été arraché et qui lui est rendu, là elle reconnaît Dieu. Et retenez bien ça dans votre esprit, parce que Élie à ce moment-là est encore à l'école. Il est à l'école, il est en train de vivre tout ça et Dieu est en train de lui montrer qui il est. Il est en train de lui montrer « Obéis-moi et tu vas voir ma main. Je vais ressusciter ce garçon. » Et il y a la main puissante d'Élie. Voilà, il se passe des choses exceptionnelles. Tout simplement parce que Élie est dans l'obéissance. Et là, il est à l'école. Et on aime bien cette histoire, mais ça va beaucoup plus loin. Il faut suivre. Il faut aller plus loin. Ensuite, on arrive 3 ans après. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu revient vers Élie et lui dit « Maintenant, il est temps. Tu te souviens, tu as dit à Acab qu'il n'y aurait plus d'eau. Maintenant, tu retournes voir Acab. Et puis, tu vas lui parler. » Et on arrive au verset premier du chapitre 18 de 1 Roi. « Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Acab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » C'est très clair. Tu te présentes à Acab, et moi je vais faire tomber la pluie. C'est clair. Jusque-là, Élie avait obéi à tout. Il a vu la main de Dieu. Et là, regardez ce qui va se passer. Il va se présenter. Et là, il marche. Vous avez Élie qui marche. Et puis, il rencontre qui? Il rencontre Abdias. Abdias, c'était un homme qui était au service de Acab, mais qui aimait l'Éternel. Et là, il dit à Abdias, « Écoute, Abdias, va chercher ton maître et tu lui dis que j'arrive. » Et Abdias, il dit, mais t'es complètement fou. Moi, je vais pas aller dire à Acab que t'es de retour. Parce que là, il fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Il abat tous ceux qui ne se prosternent pas devant Baal. Et moi, je vais aller voir Acab, je vais lui dire « Élie est de retour, toi tu vas être pris par l'esprit, et puis il va me tuer moi !» Réaction humaine. Élie écoute ça, il entend l'atrocité d'Acab qui tue tout le monde. Il entend, il voit ça. Et Élie, lui, c'est pas possible au-dedans de lui. Lui, il aime Dieu, il a un cœur pour Dieu, c'est un serviteur. Et il dit « C'est pas possible !» Lui, il tue les prophètes. Lui, il s'attaque au peuple de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Élie lui dit, vous allez voir au verset 15, Élie répondit, « L'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui, je vais me présenter devant Acab. » Là, il ne parle plus de pluie. Dieu vient de lui dire, « Va voir Acab, je vais faire tomber la pluie. » Et là, vous avez Élie qui dit au gars, il y a une réaction qui se passe. Dans ce chapitre-là, Élie est en train de réagir humainement. Il se passe quelque chose en lui. Il ne supporte pas ce qui se passe. Et il dit, moi, je vais maintenant me présenter. Moi, je vais me présenter à Acab. Il ne parle plus de pluie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la suite. Élie va dire, OK, vous êtes gentil. Moi, je suis le seul prophète d'Israël en ce moment. Et vous savez quoi? Réunissez les prophètes de Baal. Réunissez-les tous. Et on va faire un défi. Je vous lance un défi maintenant. Je vais vous lancer un défi. Et il dit, vous allez faire un autel, vous allez tuer un taureau, vous allez mettre dessus. Je vais faire la même chose. Et puis là, on va voir qui est le vrai Dieu. Qui est le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est Baal le Dieu d'Israël ou est-ce que c'est l'Éternel Yahweh le Dieu d'Israël? Et là, les deux autels sont là. Et vous avez Élie qui attend. Il attend, il attend, il attend. Et à un moment donné, il se moque même d'eux. Vous allez voir au verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage, peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Il est en train de se moquer d'eux. Élie savait comment appeler Dieu. Il savait comment invoquer son Dieu. Il connaissait son Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstitué les autels de l'Éternel qui avaient été abattus avant, et il savait que Dieu allait se manifester. Il n'a pas fait ce défi-là par hasard. Parce que Dieu voulait à nouveau devenir le Dieu d'Israël. Alors Élie monte l'autel, il met le taureau, et là il va prier, il dit « Seigneur, manifeste-toi maintenant. » On a dit « Révèle ta puissance. » Vous vous souvenez ce premier chant? « Révèle ta puissance. » Et là c'est comme si Élie vient devant Dieu, il dit « Maintenant, révèle ta puissance. Ils ont besoin de voir que tu es Dieu. Ils ont besoin, j'ai tellement un zèle pour qu'ils se tournent à nouveau vers toi. Manifeste-toi, s'ils voient ta puissance, le peuple entier va se tourner vers toi. Et Acab va être déchu. » C'est ce que pensait Élie. Et Élie arrive, il prie l'Éternel et il dit « Seigneur, manifeste-toi. Avant, il avait poussé le bouchon. Non seulement il se moque d'eux, et il dit, allez chercher des carafes d'eau, mouillez-le 3 fois, 4 carafes x 3, et mouillez l'hôtel. Imaginez, c'était mouillé. Il n'y avait pas beaucoup d'eau à ce moment-là. Il n'y avait pas encore plu. Où est-ce qu'on allait chercher cette eau? C'était tout ce qui restait. Et puis là, mouillez l'hôtel, vous allez voir. Et là, le feu de l'Éternel est tombé. Il y a tout consumé. L'eau s'est asséchée. Il y a eu un grand miracle. Et là, le peuple de Dieu a dit, c'est l'Éternel qui est vivant. Et avant ça, avant de lancer son défi, le peuple avait dit, quand Élie a dit, écoutez, on va faire tel défi, le peuple avait dit, c'est bien, on va voir la main de Dieu. Et là, ils reconnaissent. Et puis, on va voir que Élie s'enflamme. Élie, il est rempli d'un zèle farouche, là. Là, il a envie de régler tous les problèmes. Vous voyez, Élie, là, est en train de porter. C'est comme si Élie était en train de tout porter. C'était lui qui allait régler tous les problèmes. C'était à sa manière, et Dieu vient avec moi. Et lui, il connaissait Dieu. Dieu, là où il y a de la foi, il agit, Dieu. Là où il y a de la foi, il agit. Et là, il y avait tellement la foi que Dieu agit. Et qu'est-ce qui se passe? Rempli de zèle farouche, il dit, on va régler les problèmes maintenant. Prenez ces 450 prophètes, hop, et il les égorge. Est-ce que Dieu lui avait demandé ça? Dieu lui avait juste demandé d'aller dire à Akab qu'il allait pleuvoir. C'était la seule chose. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais parlé d'aller tuer les prophètes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Élie pensait qu'il était plus que le seul prophète. Il écrit, je suis le seul prophète. Mais Abidas avait dit, j'en ai caché 100 dans la grotte. Ah, il avait oublié ça. J'en ai caché 100. Il pensait être le seul qui connaissait l'Éternel dans tout le pays maintenant. Alors il s'est dit, moi je vais régler les problèmes. Rempli de foi, rempli de zèle, de connaissance de son Dieu. Dieu va se manifester, je vais remettre l'autel en place, il y a le feu qui va tomber. Et ensuite, par excès de zèle, il égorge tout le monde. Et Dieu a jamais demandé ça. Et on va lire plus loin. Chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, je saute encore une étape. Donc, Élie est appelé, je résume, parce que c'est une longue histoire. Élie est appelé pour arrêter la pluie. Dieu l'emmène, où ça, en formation. Élie a un ressenti. Il manifeste la puissance de Dieu. Il dit, Seigneur, révèle ta gloire, ils ont besoin de voir ta gloire. Dieu se révèle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il va prier pour la pluie. Juste après ça. Élie dit, maintenant je vais monter. Il monte sur le sommet du Mont Carmel et il commence à prier. Seigneur, envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie. La pluie tombe et là, il va voir Akab et il lui dit, va-t'en parce que la pluie va tomber. Il faudrait pas que tu sois mouillé, mon petit Akab. Et puis lui, il prend son char avec ses chevaux. Il s'en va. Et puis, vous voyez au verset... Combien? Comment tu sais que c'est 45? Ah, la main de l'Éternel repose sur Dieu. Voilà, au verset 46, tu vois, tu étais un prêt. Au verset 46. À ce moment-là, si vous lisez l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal, il n'est jamais dit que Dieu était avec Élie. Dieu a manifesté sa puissance, mais il n'est pas dit que Dieu était avec Élie. Par contre, quand il prie pour la pluie, au verset 46, la main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture. Et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizel. Donc, il a dépassé un char avec des chevaux en courant. Exceptionnel. Et quand Dieu est avec lui, il se met à courir et c'est facile pour lui. Il n'y a pas d'effort. Juste avant, il a fait beaucoup d'efforts, Élie. C'était beaucoup d'efforts par lui-même, pour le service de Dieu. Beaucoup d'efforts. Mais là, il a juste fait ce que Dieu lui demande. Dieu lui donne la force et il dit, maintenant, va-t'en. Ça marche? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Élie, à ce moment-là, il se dit, c'est bon, c'est réglé. La pluie revient. J'ai réglé le compte à 450 prophètes. Attention, parce qu'il aurait pu s'enflammer. Il y avait encore 400 prophètes d'Astarté, hein. D'accord? Qui poussaient le peuple juif à se prostituer. Donc, imaginez, hein, s'il était mal disposé, il aurait pu rayer tout ça aussi. Mais il l'a pas fait. Et donc là, Élie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se dit, c'est bon, c'est réglé. Le peuple a vu. Le peuple a dit, l'Éternel est Dieu. Maintenant, ça va calmer tout le monde. On a éradiqué les prophètes de Baal. C'est bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akab, il va voir qui? Sa femme, Jézabel. Et il lui raconte toute cette histoire. Et Jézabel, elle a pas peur. Elle prend ça comme une petite claque. Elle dit, attends. Et elle prend un espoir, elle dit, va voir Élie. Et tu lui dis que si demain, à 7h, il est pas mort, eh ben, que les dieux m'en tiennent rigueur. Donc là, il comprend que là, tout le monde, il y a une armée qui va courir derrière lui. Et qu'est-ce qui se passe avec notre petit Élie? Élie, l'homme puissant, le prophète glorieux, celui des mains duquel le feu tombe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui lui arrive, qui lui était jamais arrivée. Élie prend peur. Oh là 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 là. Jézabal a envoyé un message à Élie pour dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et Élie laissa son serviteur. Il abandonne même son serviteur, il part tout seul. Et là, il y a peur. Et Élie, vous voyez, il est encore dans le fer, je pars. Il part, il marche, il donne toutes les ressources qui lui restent humainement. On dit qu'il marche dans le désert, il donne tout. Jusqu'au moment où il est tellement épuisé, il s'assoit, il s'endort. Épuisé. Et on va voir ce qui se passe. Il y a un ange qui arrive, qui dit « Élie, Élie, lève-toi, mange !» Élie est dans un état où il a connu le doute de ce qu'il a fait. Le doute a suscité quoi? La crainte. La crainte a suscité quoi? Le désespoir. Et là, il arrive dans le désert et il dit « Seigneur, ôte-moi la vie ». Il est dans la dépression. Impressionnant. Élie, le grand homme de Dieu, qui arrive à déprimer comme ça jusqu'à dire « Mais Seigneur, ôte-moi la vie! J'en peux plus !» Juste avant, il voit la main de Dieu, il voit la puissance. Il s'était dit « Tout va être réglé ». Finalement, le peuple s'est pas tourné vers l'Éternel. Et en plus, il y a des espions à ses trousses. Rien n'a fonctionné comme il voulait. Et pourtant, la main de Dieu s'était manifestée. Révèle ta puissance. Oh là là. Élie est perdu, complètement perdu sur son petit rocher là. Alors, on en est où, or? Verset combien? Alors, que le Dieu me traite avec rigueur. Voilà, verset 4, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et là, vous voyez, il se sent accablé, tu vois mes pères, ce qu'ils ont fait, moi je suis pas meilleur qu'eux. Voilà, la fierté d'Élie là est retournée en quelques secondes. Et là, eh bien, il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. La première chose que va faire l'ange pour renouveler Élie là, c'est lui dire « Mange, t'as besoin déjà que l'homme physique soit solide. Mange maintenant. » Il mange, il est tellement épuisé, il se rendort. Et là, il va lui dire, deuxième fois, il retape sur son épaule « Lève-toi et mange, car le chemin est long pour toi. » Et il dit maintenant « Lève-toi et tu vas marcher. » Et là, il va manger. Là, Dieu à nouveau prend soin de lui. Vous voyez, c'est plus dans le Élie va faire quelque chose, c'est maintenant Dieu prend soin de lui à nouveau. Et Dieu lui dit, mange ça, et là il va marcher 40 jours et 40 nuits sans rien manger. Et il va marcher jusqu'où? Il va marcher jusqu'au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est là où Moïse a reçu les 10 commandements. Il fait le chemin inverse qu'a fait le peuple de Dieu pour sortir de l'esclavage. Lui, il refait le chemin inverse et il va à la rencontre de Dieu. Et il arrive sur ce mont Horeb et il se retrouve dans une grotte. Et là, Dieu dit, maintenant, je vais passer devant toi, comme il a fait à Moïse. Imaginez ça. Et lui, il est dans sa grotte, il est perdu, il est tout frileux, il est pas bien. Et là, Dieu passe. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On arrive au verset 9. Élise, elle est avec moi. Alors là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Et là, moi, j'aime Dieu. Comment il parle à Élie? C'est Dieu qui vient de l'envoyer. Il a dit, lève-toi. Il lui a donné à manger. Il a dit, va jusqu'à Horeb. Et là, il regarde. Élie, que fais-tu ici? Et là, Dieu est en train de frapper son cœur. Élie, tu te souviens ce que tu as fait au Mont Carmel? Tu te souviens? Tu as dit que tu étais mon serviteur. C'est-à-dire que moi, je suis ton maître. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que là-bas, tu as agi comme toi, tu voulais. Tu n'as pas agi comme moi, je voulais que tu agisses. Que fais-tu ici, Élie? Il est en train de toucher son cœur. Et là, on va voir la réponse d'Élie. Impressionnante. Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Vous voyez, il connaît l'Éternel. Il sait que l'Éternel est le Dieu de l'univers. Il dit, « J'ai déployé tout mon zèle. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. » Et ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. C'est moi seul qui... Il pensait être seul, notre petit Élie. Je suis resté moi seul et il cherche à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. Et Dieu va encore lui montrer qui il est. Dieu va dire, Élie, regarde qui je suis. Et là, suivez bien. Je t'ai donné tous les versets ou pas? T'as jusqu'à combien? Ah bah oui, c'est super. Voilà, on va lire ensemble. Important. Bon, Chanel, tu vas lire? Parce que je dois boire. Alors tu lis jusqu'au verset 13.
L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?»
Voilà, l'objectif de Dieu était que le peuple d'Israël se tourne à nouveau vers lui. Voilà pourquoi Dieu a fait arrêter la pluie. Il a mis une épreuve là. Et il voulait tout simplement que Dieu manifeste sa main, que Élie manifeste la gloire de Dieu avec la pluie. Et il y a eu ce phénomène au Mont Carmel où voilà, il a commencé à décapiter tout le monde et il a voulu faire à sa sauce. Et là, il lui dit, premièrement, « Pourquoi t'es là ?» Ensuite, il lui dit, « Sors de ta grotte et regarde, je vais passer. » Et là, tous les éléments se déchaînent. Le vent arrive, il fend la montagne. Vous avez, c'est quoi, le vent qui arrive. Le vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Imaginez ça, c'est puissant. Dieu est en train de montrer sa main. Mais oui, je suis le Dieu puissant. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, l'Éternel n'était pas... Il écrit quoi? L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Tout se déchaîne. La puissance encore. Et l'Éternel dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, le feu qui tombe, le feu comme au Mont Carmel là. Et là, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et là, tout simplement, un murmure, un silence. Et là, il était l'Éternel. Et là, il y reconnaît Dieu. Là, c'est comme s'il y avait à nouveau une rencontre avec le Dieu qu'il connaissait. Il est craque, il cache son visage. Mais je me suis enflammé avec la démonstration. Je me suis enflammé avec toutes ces choses. Je voulais prouver que tu étais le Dieu. Et là, Dieu lui montre, mais c'était pas là que j'étais. Moi, je suis dans le silence de ton cœur. Tu as besoin de retrouver ta relation avec moi. Et moi, je cherche des cœurs. Et il cherchait le cœur d'Israël. Et souvenez-vous de cette veuve. La veuve, elle a pas reconnu Dieu au moment où il y a eu le miraculeux, où il y a eu le surnaturel avec la multiplication. Elle a reconnu Dieu quand son cœur a été saisi, au moment où son fils, voilà, la chose la plus chère a été ressuscitée. Vous voyez le lien. Et en fait, il est passé à côté de cet enseignement, Élie. Élie, il a voulu manifester la main de Dieu. Il a voulu manifester à tout prix la puissance de Dieu. Et là, Dieu il a dit, mais en fait, c'est pas comme ça que j'allais faire. Et il l'a pas blâmé. Aucun moment, il reparle de ce moment-là. Il le blâme pas. C'est juste qu'il est en train de le recentrer. Il est en train de le recanaliser, dire, Élie, reviens à moi maintenant. Et là, dans le silence de son cœur, et instantanément, alors vous voyez, il était caché dans sa grotte, comme Adam et Ève se sont cachés face à la main puissante de Dieu. Et ensuite, Dieu a touché son cœur. Un silence, un bruit dans notre cœur. Et là, Élie se relève, il se cache la tête et il dit, OK. Et on va aller plus loin. Et ensuite, on voit au verset 13, à la fin du verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Là, au moment, vous voyez, il était au moment où il y a toutes ces perturbations, où il y a le spectaculaire qui se manifeste. Là, il est bien caché, là, il a peur. Et au moment où il entend la voix de Dieu, là, il est rassuré. Et là, vous voyez, il sort de la caverne. Là, à ce moment-là, il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. C'est la quatrième fois qu'il entend la parole de Dieu. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qui t'a amené là? Comment t'en es arrivé là? Que fais-tu ici, Élie ? Élie, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, parfois, vous voyez les grands hommes de Dieu, les hommes puissants qui manifestent la puissance de Dieu, ils sont aussi bouchés que vous et moi. Parce que Élie était un homme. C'est un homme de Dieu, mais avant tout, c'est un homme. Et la crainte a pris le pas. Et là, au lieu de dire, mais Seigneur, pardonne-moi, c'est bon, je reviens à toi. Il reste bouché. Et il va encore une fois se justifier. Et vous allez voir, l'Éternel lui dit, que fais-tu ici ? J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. À nouveau, deuxième fois qu'il dit la même chose. Et là, Dieu, à nouveau, il blâme pas. Il dit quoi ? Il lui dit, et l'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin. Dans le désert jusqu'à Damas, une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme le roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de... Et là, il y a toute une histoire. Élie, là, il s'incline. Si vous lisez la suite, Élie va faire là ce que l'Éternel lui demande. Il va arrêter de dériver. Et il va aller oindre les rois. Il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Parce qu'il faut savoir que ce roi-là, après, a amené beaucoup de malheur en Israël. Et il ne supportait pas Élie le malheur qu'Israël supportait. Mais il va dire, ok, je le fais. C'était un prophète, il voyait, il savait ce qui allait se passer. Et il le fait quand même. Parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et Élie, quelque part, avait essayé de forcer la main de Dieu à un moment donné. Et ensuite, il lui dit, maintenant, tu vas aller oindre ton successeur. C'est fini pour toi. Tu vas aller oindre Élisée. Élisée va continuer. C'est quelque part, il est en train de prendre son onction, la mettre sur Élisée. Lui, il va faire les dernières choses que Dieu lui demande de faire parce que Dieu est juste et Dieu est bon et Dieu aime ses serviteurs. Il a honoré Élie jusqu'à la fin malgré les écarts d'Élie. Tout comme il a honoré Moïse. Il a honoré Moïse dans sa mort, mais pourtant Moïse n'a pas vu la terre promise. C'est Josué qui l'a vu parce que voilà, il y a eu des écarts. Des grands hommes de Dieu qui sont parfois passés à côté. Et là, on voit cette histoire, c'est incroyable. Et là, Élie va commencer à faire à nouveau ce que Dieu lui demande. Et vous voyez, Élie a été accablé. Élie a été découragé. Et parfois, dans l'œuvre de Dieu, on peut être découragé. Nous, personnellement, on peut être découragé de ce que Dieu nous demande pour notre vie. On peut être découragé dans notre appel. On peut être découragé parce que, quelque part, la vie est là et il y a un découragement spirituel. Et Dieu, il veut nous relever comme il a fait avec Élie. Il va dire d'abord, mange, dors, rétablis-toi physiquement. Et une fois que tu seras rétabli physiquement, eh bien moi, eh bien des cendres de la désolation, je vais lever un feu. Le feu de la joie va venir à nouveau. Tu vas brûler à nouveau pour moi. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous relever quelque part de cette détresse pour faire des choses nouvelles. Et il a appris à Élie. Élie, ça sert à rien d'avoir des objectifs, des buts pour moi à accomplir. Mais j'ai besoin d'entrer dans ta vie. J'ai besoin de changer ton cœur afin que tu accomplisses les plans pour ta vie. Et là, il met Élie dans cette grotte, il est en train de mettre Élie face à lui-même. T'es face à toi-même parfois avec Dieu. Et Dieu est en train de lire dans ton cœur et t'es en train de reconnaître. Élie est en train de reconnaître, il reconnaît, mais Seigneur, j'étais plein de zèle. Oui, il est en train de reconnaître, j'étais plein de zèle. Oh, t'as changé quelque chose, non ? C'est moi ? D'un coup, j'ai eu des trucs. Et puis, c'est l'Éternel qui me parle. Vous voyez, il était plein de zèle. Il reconnaît quelque part. Et parfois, on a besoin de reconnaître nos faiblesses. Mais Dieu lui dit, écoute, Élie, je t'avais demandé une chose. T'étais pas le seul. Et à la fin, il va lui dire, et au verset 16, mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Élie pensait être le seul, mais il y avait 7000 personnes qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Il y avait 100 prophètes qui, dans le silence, dans les grottes, priaient le Seigneur pour le salut d'Israël. Élie n'était pas le seul. Vous voyez l'idée? Et pourtant, Élie est nommé parmi les héros de la foi. On dit que les prophètes sont nommés parmi les héros de la foi. Élie était lors de la transfiguration de Jésus. Élie était auprès du Père. Vous voyez? La faiblesse de l'homme. Et pourtant, Dieu nous relève. Mais parfois, on peut passer à côté d'une destinée. Il a dû laisser son onction à Élisée. C'était le temps, c'était fini. Tiens, Élisée, à toi, continue. Vous me suivez? Vous me suivez. C'est bien, hein? Alors, je vais faire un lien un peu avec ce qu'on a reçu, Thierry, mardi matin. Mardi matin, ça m'a frappé. Et je disais, Seigneur, mais c'est fort ce que tu nous dis là. On peut pas oublier comme ça ce que tu nous dis. On était dans l'intercession. Et Dieu nous a parlé de tremblement de terre. Vous vous souvenez, Thierry, c'était fort, que Dieu envoyait des tremblements de terre. Dieu nous a parlé du souffle qui allait souffler, qui soufflait ici sur la ville, qui soufflait sur notre assemblée. Et ensuite, il nous a parlé du feu. Et moi, ça trottait dans ma tête. Et quand je préparais la présentation, c'est hier soir, ça m'a fait. Je dis, mais Seigneur, c'est incroyable ce que je vais prêcher, c'est l'histoire de ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, Dieu, oui, les tremblements, il veut manifester, il veut faire trembler les choses dans notre vie, il veut faire trembler les forteresses dans nos cœurs, il veut faire trembler les puissances des ténèbres autour de nous. C'est bien, mais ça, c'est pas l'important. Dieu n'est pas là, en fait. Ça, c'est juste une conséquence de notre foi. Là où il y a la foi, il y a des conséquences. Là où il y a la foi, il y a des choses qui bougent. Là où il y a la foi, il y a le feu qui tombe. Mais l'objectif, c'est pas de courir après le feu, c'est de courir après ce souffle qui commence à travailler les cœurs, qui commence à nous amener dans une intimité avec Dieu. Et là, Dieu dit, garde ce souffle en toi. Parce que lorsqu'il y aura ce souffle, il y a le feu dans toi qui va commencer à démarrer. Ce feu qui consomme tout. Et ce feu, c'est quoi? C'est personnel. Dieu va te mettre face à tes défis, à tes peurs, à tes craintes. Et il va dire, là, t'as besoin du feu pour surpasser ça dans ta vie. T'es peut-être quelqu'un qui a des racines de dépression. Regarde-les en face. Et c'est moi qui vais t'aider. C'est moi qui vais te donner tout ce dont tu as besoin. Je vais mettre une veuve sur ta route. Je vais mettre des prophètes sur ta route. Je vais mettre des situations sur ta route. Mais je vais t'aider. Mais arrête de faire toi-même. Parce que si tu veux lutter dans ta vie toi-même, juste être celui qui se bat, qui se bagarre, qui fait pour Dieu, qui fait à l'église, qui fait partout. Mais tu vas t'épuiser. Et tu vas te retrouver dans le désert affamé et assoiffé. Mais lorsque tu laisses la pluie de Dieu descendre dans ta vie, là, tu cours comme une gazelle. Vous voyez comment il a couru? Là, tu fonces. Parce que Dieu est avec toi. Ça va? Alors, pour tous ceux qui sont découragés dans le travail, si Dieu t'a pas dit de bouger, tu bouges pas. Pour tous ceux qui sont découragés dans la famille, si Dieu te dit pas de bouger, tu bouges pas. Tu bouges que quand Dieu te le dit. Ne force pas la main de Dieu. Tu peux forcer la main de Dieu et dire, Seigneur, je supporte pas cette situation maintenant, tu viens là! Et t'as tellement la foi que Dieu arrive, il y a le feu qui tombe, mais ça règle rien. Et Dieu dit, mais moi je voulais toucher le cœur de ta mère là. Pourquoi tu lui frappes dessus? J'étais en train de travailler son cœur, tu sais pas qu'il y a encore 7000 hommes là-bas qui prient pour elle. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Il y a des choses, c'est le Dieu de l'univers. Pourquoi il y a tel président? Pourquoi il y a telle situation? On sait pas, mais c'est Dieu qui fait les choses. Et il nous dit, fais ce que je te demande. Parce que c'est là où tu vas vraiment voir ma gloire. Et c'est là où vraiment les choses vont changer. Mais si t'es rempli d'un zèle farouche pour régler et prendre tous les poids de l'univers, tous les poids de l'œuvre de Dieu sur toi, mais tu vas t'épuiser. Et je vais te relever. Parce que moi, des cendres, je fais quoi? Je fais un feu. Il souffle sur les cendres. Il nous ramène toujours, Dieu. Il nous ramène toujours. Mais quelque part, on perd du temps. C'est comme ce peuple de la précédente prédication que j'avais faite, qui retourne dans le désert 38 ans parce qu'il y a eu une crainte, il y a eu une peur. Et Dieu veut qu'on fasse, on ait un face à face avec nos peurs. C'est comme des tremblements, c'est comme des choses qui bouleversent nos vies. Et il nous dit dans le silence, t'inquiète pas, je te mets la paix maintenant. Ça peut être cataclysmique autour de toi, mais maintenant le petit, vous savez, cette petite paix qui tombe, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien de spectaculaire. Mais cette paix-là qui vient dans le cœur, et là tu dis, Seigneur, tu t'occupes de tout. J'ai aucun doute. Ça vous va? On reste sur ça. On va pas chercher à aller plus loin. On va prier un petit peu. Et donc, ok, Seigneur, révèle ta puissance. Pourquoi? Eh ben, juste quand toi t'en as envie, hein. Parce que si c'est pour me faire plaisir, ça sert pas à grand chose. Seigneur, ta grâce me suffit. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Élisée, ta grâce me suffit, je peux te bénir, je peux faire tout ce que je veux, voilà. Et ensuite, eh bien, c'était quoi le troisième point de notre louange? C'était, Seigneur, là maintenant j'ai ta victoire. Et on veut la victoire de Dieu. Seigneur, je te prie maintenant pour toute personne découragée, Seigneur, quelle que soit la situation. S'il y a un découragement spirituel ce matin, eh bien, je proclame, Seigneur, que tu souffles sur les cendres, Père. Je proclame, Seigneur, que tu as des plans sur notre vie, qu'on maîtrise pas tout, on peut pas tout gérer, on peut pas tout canaliser, mais toi, tu connais toutes choses. et tu parles à nos cœurs dans un souffle, dans un silence, comme à Élie, ce prophète rempli de d'autorité, Seigneur, rempli d'onction. Et pourtant, Seigneur, lorsqu'il a entendu ta voix, il s'est incliné devant toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons être sensibles. Nous voulons tendre l'oreille ce matin. Cette semaine, nous voulons tendre l'oreille, Jésus. Nous voulons être comme Élie, là, et dire, Seigneur, mais je reconnais, maintenant, je veux avancer. Et tu vas nous lever, tu vas nous donner une mission supplémentaire, Seigneur. Je te prie toutes les personnes, Seigneur, qui se sentent indignes de toi, Père. Seigneur, il y en a tellement. Eh bien, maintenant, tu souffles dans leur cœur et tu leur dis, ne t'inquiète pas, je suis là. Seigneur, commence à souffler un baume, là. Un petit souffle. Tu as dit que tu étais en train de souffler, Père. Souffle sur notre assemblée. Seigneur, souffle sur notre assemblée. Que chacun puisse faire face à sa vie, Père, et t'invoquer, Éternel. Oh, Seigneur, que chacun puisse te faire confiance, Seigneur. Seigneur, confiance en toute chose, malgré, Seigneur, les tremblements, le cataclysme, Seigneur. On veut te faire confiance, Père. Parce que même s'il n'y a pas du spectaculaire autour de nous, tu es là. Tu es à côté de nous, tu as dit « je serai là ». Et Seigneur, là on parle de l'Ancien Testament, mais depuis tu as envoyé ton Fils, tu nous as donné ton Saint-Esprit, et maintenant nous sommes remplis, Dieu de gloire. Seigneur, tu es notre espérance. Seigneur, ta grâce nous suffit, au-delà de toute chose, ta grâce, Seigneur, et on veut le reconnaître. Seigneur, toutes les fois, Seigneur, où on a été déçus parce qu'on avait l'impression que tu n'agissais pas, Seigneur, où on s'est dit « mais mince, pourquoi il n'agit pas ?» Seigneur, on te demande pardon. Parce qu'on sait que tu es au contrôle en toutes choses. Seigneur, on te remet nos vies maintenant. On te remet nos situations difficiles. On te remet nos problèmes. Et on veut faire ce choix. On veut faire le choix de te faire confiance maintenant. Maintenant, Seigneur. Seigneur, il y a beaucoup de gens là dans cette pièce. Le travail, c'est une catastrophe pour eux. C'est comme un cataclysme. Seigneur, ben règle tout ça. Mets-leur cette paix, Seigneur. Jésus, maintenant. Seigneur, dans les situations familiales, maintenant, Seigneur, la paix. Jésus, on peut pas tout régler par nos forces, mais on a besoin de toi, Éternel. Amen. Sandy, je te laisse clôturer.